Christophe, oui, Christophe Hoyert, bonjour à tous. Présent devant Dominique Smets aux arts ménagers de Charleroi, qui se tient jusqu'au 17, ce dimanche 17, c'est ça, novembre.
17, c'est ça,
plus que ça. Et donc, là, je voulais partager avec vous l'expérience de cette aventure à la fois artistique, humaine et totalement novatrice qui est Marbistar de Couille les deux églises. Donc voilà, Dominique Smets, tu es l'actrice, la scénariste et la réalisatrice du film.
Oui, tout à fait, voilà, j'ai plus rien à dire là.
Et comment ça a commencé, l'idée, comment elle a commencé à germer en toi, l'idée de l'histoire, comment c'est venu?
Mais en fait, c'est un hasard. À la base, moi, j'étais humoriste puisque j'ai fait 3 One Woman Show, que j'ai joué au Festival Avignon, à Paris, etc. J'avais réalisé une petite série télévisée sans moyens, donc avec des moyens zéro, on va dire, qui s'appelait déjà Marbistar de Couille des Églises. Elle avait tellement de succès, cette série, qu'un jour, j'ai un journaliste d'RTL qui m'a rencontré, il m'a dit, écoute, tu devrais absolument proposer ça à Canal+. Et je l'ai proposé, j'ai proposé 2 épisodes à Canal+. Canal+, était super intéressé. Et de ce fait-là, j'ai changé d'avis, je n'ai pas souhaité qu'il soit diffusé sur Canal+. Je me suis dit, dans le fond, je vais en faire un long métrage, mais avec une énorme naïveté, quoi. Je ne me rendais pas compte du travail que ça allait provoquer, parce que c'est assez énorme de se mettre à faire un long métrage, que ce soit la partie scénaristique, que ce soit la partie réalisation, que ce soit la post-production. Donc tout ça, c'est un travail de titan, on va dire, hein. Mais bon, moi, je suis toujours partie sans trop me poser de questions au départ, et je pense que parfois d'être naïf, c'est pas mal non plus, dans le sens que on peut parfois arriver au bout, parce que si on se pose trop de questions avant de commencer, on fait rien. Il y a beaucoup de gens comme ça, oui mais si je fais ci, oui mais si je fais pas ça, et pour finir on ne fait rien, voilà. Donc moi, je suis allée au bout.
C'est le problème de ce qu'on appelle la procrastination, qui fait qu'on passe jamais aux actes.
Exactement, voilà, c'est ça. Et donc j'ai aussi la chance d'avoir Dominique Dubuisson, qui est le producteur du film et qui est mon compagnon dans la vie depuis 22 ans. Et bon, lui était tout à fait décidé, et là commence à voir la première version de mon premier scénario. Il dit, moi, j'ai envie de produire ce film, j'y crois. Ton film parle de solidarité, d'entraide, il a un beau message, ça fait rire, c'est émouvant en même temps. Voilà, il avait fort confiance en mon travail. Et aussi, je veux dire, j'ai une double chance, c'est qu'un producteur en général a tendance à donner son avis, à imposer certaines choses, que ce soit le choix des comédiens, que ce soit le travail du scénario, parfois la façon de finir le film ou toutes ces choses-là. Et bon, lui, il m'a laissé carte blanche, donc c'était magnifique. Bon, il faut dire que dans un couple, je crois que j'aurais crié un petit peu fort, je ne me serais pas laissé faire parce qu'il était hors de question. Je voulais tenir les rênes de mon projet, de mon travail, et c'est ce que j'ai eu l'opportunité de faire. Donc c'était vraiment absolument génial pour moi de pouvoir arriver au bout sans être imposé de quelque chose par des personnes autour de moi, quoi, dont le producteur, quoi.
D'accord. Et donc, même chose que pour Dominique Dubuisson, pas de doute, pas d'angoisse, pas de questionnement sur tes capacités, la direction d'acteur, est-ce que tu te sentais à l'aise avec ça?
Alors moi je crois que je suis peut-être un ovni. On parle que le film est un ovni jusqu'à maintenant, mais je crois que je suis un ovni aussi parce que je n'ai peur de rien, je ne suis angoissée de rien. Encore une fois, c'est une forme peut-être de naïveté, mais il y a peut-être de la naïveté, mais j'ai aussi une certaine maturité, un vécu, etc. Et ce vécu fait que je sais où je vais, je sais ce que je veux faire passer, je sais comment travailler au niveau de la psychologie de mon film, enfin je savais où j'allais, et la direction des comédiens ne m'a jamais fait peur. Je dirige mes comédiens en même temps que je joue, donc pendant que je joue, je sais ce que les autres font, et donc je dirige. Et ce que je voulais au niveau des comédiens, c'est surtout avoir de leur part une certaine authenticité, parce que pour moi c'est ce qui primait dans mon film, c'est pouvoir aborder le film avec beaucoup d'authenticité à travers le jeu des comédiens, parce que ce n'est plus, on va dire, vraiment un jeu de comédien à ce moment-là. Les personnes jouent ce qu'ils sont dans la vie, comme par exemple Johnny Cadillac. Je l'ai choisi, pourquoi? Parce que je trouvais qu'il dégageait, qu'il avait un aura, qu'il avait une forte personnalité, etc. Mais en plus, qu'il était qu'il était naturel, spontané, qu'il était vrai, authentique, etc. Tout comme Claudine Mailly, Mémé Loubard, c'est un personnage, voilà, qui joue, elle joue pas, elle est ce qu'elle est, voilà. Oui. Je ne cherche pas. Et donc, tous les rôles principaux, par exemple, j'ai choisi des gens qui n'étaient pas des comédiens au départ, et par contre, des rôles plus petits, c'était des gens qui l'ont endossé, comme Chantal Latsou, Patrick Ridremont, etc. Voilà, parce que la base des personnages devait être vraie et authentique. Et les autres personnages jouaient un rôle de composition. Voilà.
D'accord, et c'est vrai que finalement, on regarde le film en se disant, putain, ces mecs-là... Je suis tout à fait capable de les croiser dans la rue, quoi.
Mais oui, tout à fait. C'est ce que
un peu à tout le monde.
C'est ça. C'est ce que le public attend. Oui. Voilà. Parce que du coup, j'ai une déformation. Quand je regarde un film aujourd'hui, parfois, il y a des films que je trouve magnifiques, et à certains films, je me dis, mais c'est pas vrai. On n'est pas comme ça dans la vie. On ne parle pas de cette façon-là. On ne bouge pas de cette façon-là. Ça semble stéréotypé. Et moi, je déteste ce côté stéréotypé. Donc, ce que j'ai envie, c'est l'authenticité. J'ai toujours aimé ce genre de choses-là, parce que je trouve que dans un film, les gens se sentent concernés. Ils ont le sentiment de côtoyer des gens qui sont vrais, qui sont comme eux, quoi. Voilà. Et c'est ça qui les attire aussi.
C'est peut-être comme ça que fonctionne l'identification du spectateur vis-à-vis des personnages dans ce film.
Voilà, les gens se disent, mais ça, ils existent.
Ils sont comme moi.
Voilà, ils sont vrais, ce sont des personnages que je peux rencontrer dans la vie, voilà.
Ouais.
Et ça, c'est important. Et moi, diriger des comédiens, j'ai pas de difficulté. En fait, je m'arrange toujours pour que la personne reste elle-même. Donc, je dois toujours un petit peu la équilibrer. À chaque fois, quand je vois que là, elle a envie de jouer, dès que je vois qu'elle a envie de jouer, je dis, je ne lui montre pas, mais... Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de calme, de tendresse et d'affection dans la façon de diriger. La personne ne doit pas se sentir dirigée comme un chef. Voilà, elle doit avoir le sentiment, comme un enfant, de faire ses premiers pas. Et, oui. et c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui a cette capacité de lui donner cette aisance et la sûreté d'elle-même qu'elle n'a parfois pas toujours au départ. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose que tu sens d'instinct. Quand il se met à jouer, tu sens que c'est un peu plus artificiel que ce qu'il fait d'habitude.
Alors, si c'est artificiel, s'il part et il est parti sur un chemin qui ne me convient pas, je le recadre automatiquement, hein, parce que je vois que tout d'un coup c'est pas ça et que là il s'est laissé aller, mais il est allé trop loin et il se met à jouer. Donc par exemple John Cadillac, ben, chaque fois je le recentrais et il s'en rend compte, il le dit souvent dans les interviews, où il dit ben oui, j'ai vraiment senti que j'étais recadré, etc. Mais c'était pas désagréable, parce que c'est fait un peu comme un enfant, tu lui demandes de faire quelque chose, mais tu le demandes avec gentillesse. Il n'a pas le sentiment qu'il est dans l'erreur préalablement. Et quand on le fait recommencer, je m'arrange toujours pour qu'il ait le sentiment que, ben oui, mais c'est parce qu'on essaye une nouvelle prise et que voilà, peut-être que la suivante sera meilleure que la première, etc. Il ne doit jamais avoir le sentiment que la prise est mauvaise. Voilà. Sinon, il perd les pédales et il est mal à l'aise, il n'est plus sûr de lui, il a peur, etc. Et donc, moi, mes comédiens n'étaient pas dans l'angoisse, ils étaient toujours à l'aise. Et je veux dire, c'est même plus facile de diriger des gens qui n'ont jamais joué que des gens qui ont joué. Alors il y a des gens qui ont joué déjà un certain nombre de fois, qui sont excellents spontanément parce qu'ils ont déjà une forte personnalité, ils sont super à l'aise, etc. Et puis il y a des gens en même temps qui ont déjà joué et qui eux par contre sont justement stéréotypés, ils jouent toujours à peu près de la même façon, ils ont trouvé une sorte de musique comme ça qui est toujours la même, mais moi parfois ça me dérange, voilà.
Ils ont déjà un tic de jeu.
Peut-être, oui, c'est peut-être ça, voilà, un tic de jeu. Voilà.
Trop d'expérience et ils sont assis dans ce qu'ils savent faire le plus et sans vraiment explorer de nouvelles choses.
Voilà, ouais. Mais moi je pense que de toute façon, oui, ceux-là pourraient explorer si c'est un rôle de composition, ouais. Mais mes comédiens, c'est pas un rôle de composition, ils jouent eux-mêmes. Et moi, c'est un rôle de composition évidemment, parce que je joue une femme, pas très évoluée, qui est naïve, etc., qui vit sur sa planète, qui est complètement à côté de ses ponts.
Mais c'est super, hein, t'es complètement dans le rôle, le personnage, tu le maîtrises à fond, comme tu dis, tu l'as exploré, tu l'as étudié dans les petits courts-métrages que tu faisais avant,
voilà. Alors,
parce que c'est le même personnage finalement.
Alors non, pas du tout. En fait, Marby dans la série télévisée, c'est pas du tout ça. Marby est limite débile, quoi. Et c'est pas du tout la même. La série n'est pas représentative du film du tout, parce que la série elle est drôle, mais elle n'a pas de message. Elle ne dénonce rien, elle n'a rien à dire. C'est juste un style, un genre, on va dire, qui m'est personnel dans la façon d'aborder l'humour. Mais dans le film, il y a vraiment l'émotion, ça dégage. La personne qui fait pleurer, c'est moi dans le film, c'est mon personnage de Marby, ce qui n'était pas le cas dans la série. Et les personnages, même si je fais rire aussi, hein, mais par mes bêtises, etc., par mon immaturité, etc. Mais Johnny fait rire aussi par sa personnalité, son côté complètement à côté de ses pompes aussi. Il se gourre complètement, il croit vraiment qu'il est producteur d'artiste, alors qu'il est simplement un producteur de bovins, qui est devenu un producteur d'artiste. artiste, donc il connaît rien au show business, quoi.
Ah d'accord, donc voilà, tu n'es pas nécessairement parti de ce que, enfin du personnage que tu avais exploré dans les courts-métrages pour rendre plus épais ce personnage de Marbistar dans la version long-métrage.
Mais
t'es pas forcément parti de là.
Ben en fait, c'est pas compliqué. En écrivant le scénario, je savais que le personnage, mon personnage était un personnage immature, un sort de Tanguy au féminin. Donc je savais qui elle était. Au moment où je vais jouer, je commence pas à dire, je vais faire ci, je vais faire là, comment est-ce que je vais le jouer. Je me pose aucune question. C'est comme si je prenais un verre d'eau, je bois, je joue, c'est tout. Je me pose pas de questions. Et j'y vais, et le personnage a le tempérament qu'il a par rapport à ce que je ressens, que je dois être. Mais je me pose jamais de questions, je le joue avec spontanéité, quoi.
Donc tu es plutôt une actrice, comment dirais-je, une actrice, il y a un terme pour ça, une actrice plutôt dans l'intuition,
oui,
intuitive.
Oui, intuitive, voilà, spontanée, qui se pose pas de questions. Je sais qui je suis. Au moment où tu sais qui tu es, tu joues, tu es ce personnage, et ben voilà, tu le joues jusqu'au bout et tu le ressens tel que, voilà, il y a pas de, je me pose pas de questions, quoi. Je n'ai pas, j'ai jamais aucune question avant, en me disant voilà, comment est-ce que je dois jouer cette scène, etc. Donc c'est assez pratique. Et donc par exemple, quand on avait les prises, ben, en général la première prise était bonne. C'était d'ailleurs souvent dans mes rushs, quand j'ai choisi, ben, j'ai pris la première généralement, à moins que je sois à côté de Johnny et que bon, j'ai besoin d'une autre prise par rapport à Johnny, ou un problème de perchman, ou un problème de son, etc. Mais en général la première était la bonne, parce que c'était, je savais où j'allais, je savais ce que je voulais faire, et je n'avais pas de questions que je me posais, quoi.
Et tu ne souffres pas par exemple du problème que certains comédiens connaissent par exemple, c'est que plus ils jouent la scène et moins ils la sentent, et moins ils sont bons au bout de la 7e ou la 8e prise.
Mais alors c'est très drôle, ben moi c'est peut-être pas moi à le dire, mais bon, j'avais des personnes qui étaient par exemple le directeur photo et celui qui faisait la prise de son, il était étonné, il disait de la première scène à la 7e, à chaque fois qu'on la répète, elle est exactement la même. Donc, mais quand on dit exactement la même, il n'y a jamais de problème. Non, je ne perds pas mon personnage, je suis toujours dedans. Je ne m'essouffle absolument pas, je suis toujours dedans. Je ne pose pas de questions.
Ben, tant mieux, hein, c'est encore mieux.
Mais oui, mais j'ai cette chance-là. Je crois qu'on n'a pas de mérite dans la vie. Hein. Je pense qu'on n'a jamais de mérite de rien. Alors moi, c'est important ce que je vais dire ici. Je pense que chacun, tout le monde a des talents dans la vie, quel qu'il soit, de toutes sortes. On a tous des talents de quelque chose, un talent ou des talents de quelque chose, de certaines choses. Et on n'a pas de mérite parce qu'on sait faire quelque chose ou on ne sait pas le faire. Quand vous naissez beau, vous naissez ou vilain, vous naissez riche ou vous naissez pauvre, vous naissez avec le talent de peindre, vous naissez avec le talent de jouer, vous naissez avec le talent d'être réceptif dans votre milieu environnemental, vous avez un bon contact avec les gens, vous avez un bon caractère ou un mauvais, tout ça c'est un don qu'on nous donne. Donc moi je n'ai aucune prétention, je considère que ce que j'ai, je peux remercier ce qu'on m'a donné, je ne sais d'où ça vient, de Dieu certainement, je veux dire, ce qu'on a, on l'a reçu, et on n'a aucun mérite d'avoir une capacité quelle qu'elle soit. Donc il n'y a aucune prétention à avoir de savoir faire quelque chose par rapport à un autre. Voilà, certaines personnes ont un talent, d'autres un autre talent.
Et donc c'est inutile de s'enorgueillir puisque c'est un don naturel.
Ah voilà, tout à fait, c'est un don naturel. Moi je n'ai aucun orgueil, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette facilité de relationnel avec les gens, parce que je considère que tout le monde est au même niveau, que ce soit le balayeur de rue ou le ministre. Pour moi ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs, parce que ce sont des humains, point la ligne, nous sommes tous des humains, et c'est ça qu'il faut regarder. Et moi j'aime les gens tels qu'ils sont, j'aime surtout les gens quand ils sont authentiques, quand ils sont vrais, et voilà, et bon ben s'ils le sont moins, je les accepte et j'ai de la compassion pour tout le monde, et j'apprécie les gens tels qu'ils sont, et je ne suis pas supérieur ou inférieur à un autre, je me considère au même niveau, voilà.
C'est très intéressant ce que tu dis, donc tu penses que est-ce que tu pourrais dire aux gens par exemple, ce que j'ai fait là avec Marbistar, quoi, tout le monde pourrait le faire s'ils s'en donnent les moyens de le faire par exemple, s'ils y croient à fond et qui vont jusqu'au bout.
Moi je pense pas spécifiquement le film de Marbistar, bien sûr que non.
Oui, non, mais leur film a
mais eu, si mais non, mais tout le monde n'est peut-être pas fait pour faire un film.
Oui.
Tout le monde n'est peut-être pas fait pour écrire, tout le monde n'est pas fait pour jouer, etc. Chacun a ses aptitudes dans la vie et chacun des capacités. Maintenant, quand vous avez envie de quelque chose, il y a des gens qui disent oh, je rêve d'être acteur. Bon, si vous rêvez d'être acteur, rêver c'est une chose, mais si vous en avez vraiment envie, mais cherchez la possibilité possibilité d'y arriver. Mais donnez-vous les moyens pour accéder à ce que vous avez envie. Mais ne vous contentez pas de dire c'est mon rêve. Voilà, vous pouvez réaliser vos rêves. Tout dépend de votre volonté d'y arriver, de votre envie, de votre détermination. Et moi, j'étais déterminée. J'avais la chance d'avoir Dominique Dubuisson, qui est producteur, qui est extrêmement déterminé aussi pour arriver au bout de certaines choses, etc. Trouver l'argent, etc. Mais vraiment, c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Parce que c'est vrai, quand même, j'ose le dire, il est exceptionnel. Personne, je suis sûre, dans le monde n'a fait ce que lui a fait. Rencontrer 500 citoyens, rencontrer 100 personnes de 100 sociétés différentes, et comment dire, diriger la production. Parce que moi, j'ai dirigé la réalisation à tous les niveaux artistiques, mais lui, la production, c'était inimaginable. C'est une entreprise absolument aberrante au niveau travail. Et en plus, il a même géré tout ce qui était finance, etc. Parce que gérer des finances à 1,5 million dans les mains, vraiment, quand même, il faut savoir le faire. Tout le monde était payé, les gens qui devaient être payés ont été payés. On n'a de dette avec personne, bon, c'est grâce à lui. Donc on a quand même, on se sent valorisé d'avoir réussi ce genre de choses quand même. Voilà, on est content d'y être arrivé, quoi. Et alors je voulais dire aussi, c'est important dans la vie de ne pas avoir, d'idées de... d'idées préconçues sur les gens. Voilà, entre ce que les gens représentent et ce qu'ils savent faire. Il y a des gens, vous savez, ils vont porter une chemise et une cravate, et tout d'un coup, ils sont valorisés. On dit, ah ben oui, tant mieux, c'est pas n'importe qui, monsieur porte des chaussures de chez Attel, porte la cravate, un costume, etc. Ou madame est toujours habillée strictement, etc. Voilà, entre ce que vous représentez et ce que vous êtes vraiment au fond de vous, il y a une réelle différence. Parce que ce n'est pas nécessairement ce que vous présentez extérieur qui est représentatif de ce que vous êtes à l'intérieur. Et voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à diriger au départ, ben, l'équipe était un peu sceptique. Ils se disaient, mais c'est qui cette fille blonde? Parce qu'encore une fois, elle est blonde, bien sûr. Une blonde qui porte des robes à petits pois et qui, alors qu'elle est habillée dans son costume de personnage, va diriger d'autres comédiens. Puis ils ont vu jusqu'au bout comment je m'y prenais et que c'était tout à fait plausible. Et voilà. Et...
Certaines personnes étaient un peu sceptiques d'être dirigées par une femme, selon toi?
Ben, écoutez, moi je crois, hein, je crois que déjà, il y a beaucoup de misogynie. Oui. On est dans un monde assez misogyne et beaucoup de machisme, beaucoup de machisme, mais je pense peut-être pas plus dans le métier, mais je pense que les femmes commencent à prendre leur place dans ce domaine, mais c'est vrai que je ressemble pas à Thatcher non plus, hein. Je veux dire, donc dans le temps on disait une femme, si elle est un peu agréable visuellement, bah, elle peut pas avoir, et on va dire, je sais pas mon cas vraiment, mais et la beauté et l'intelligence, il y a des hommes qui disent ça, et puis ça dérange aussi, hein, que quelque part une femme y arrive. Les hommes parfois ils ont l'impression de perdre leur virilité aussi, et c'est vrai que j'ai vécu des moments pas toujours très faciles, que je pourrais un jour raconter dans un livre pour montrer à quel point la misogynie peut aller loin, mais je me suis bien ébouillée. Là je suis très fière, par contre c'est que j'ai su tenir les rênes jusqu'au bout, en gardant mon calme, une forme de sérénité, de calme, parce que je pense que quand on veut diriger quelque chose, on doit rester dans le calme et la sérénité, parce que sinon on n'est plus crédible. Si on se met dans la colère, dans les événements difficiles, on perd sa crédibilité.
Mais c'est pas facile. C'est pas facile de garder son calme.
J'y suis arrivée jusqu'au bout. Voilà. Et là, je l'avoue que ça, là, j'ai été très fière. Parce que je me suis dit, là, c'est un coup de maturité. J'avais toujours dit que ce film, ce serait une leçon de vie. Mais c'était vraiment une leçon de vie. Parce que dès le départ jusqu'au bout, j'ai pu prouver que je pouvais tenir les rênes. Parce que la post-production aussi, c'est encore un travail. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est une réalisation. Hein. Et à la réalisation, c'est le choix des comédiens, le choix des lieux, la direction des comédiens. Le choix des accessoires, le choix des vêtements, j'ai choisi tout le vêtement des gens aussi, qu'est-ce que je pourrais dire encore, le choix de la musique ensuite, etc., le choix du compositeur, et voir avec le compositeur comment est-ce qu'on peut travailler, etc., voir qu'est-ce que je veux exactement. Après la post-production, donc c'est également
des rushers,
j'ai eu 30 heures de rush, sur 30 heures de rush je dois faire une heure et demie, choisir tous mes plans, ensuite il y a le mixage montage, le mixage bruitage, le mixage, l'étalonnage, c'est énorme là.
Combien de temps ça a pris pour le montage? Ça a pris en termes de mois?
En termes de moi, tout à fait. Oui, oui. En termes de moi, oui. C'était vraiment très dur. Moi, le tournage, etc., la préparation et tout, parce que j'ai le choix des lieux, etc., pour moi, c'était pas compliqué. Mais la post-production, je crois que j'allais mourir, tellement que c'était énorme. Parce que je devais passer d'un studio à l'autre. Ça se passe dans des studios différents. Et parfois, je reste 8, 9 heures, 10 heures dans un studio pour travailler sur le bruitage. Parce qu'il faut savoir que quand on filme, par exemple, celui qui prend le son, il prend que les voix, par exemple. Il prend pas les sons extérieurs. Tous les sons extérieurs sont effacés, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Et après, je dois tout rajouter. Et parfois, j'en invente aussi des sons. Je rajoute des sons qui n'existent pas. Par exemple, dans le film, à un moment donné, il y a un orage. J'ai voulu cet orage parce que je trouvais que ça allait vraiment bien à ce moment-là. Voilà. Mais il y a des sons inimaginables. Par exemple, quand vous êtes dans un hôpital, eh bien, dans l'hôpital, il y a des sons qui sont des bruits, un fond qui n'existe pas. En fait, vous ne l'entendez pas spontanément, mais il existe ce son-là. Voilà. Sans être les bruits des personnes qui parlent ou les bruits des mouvements.
Oui, il paraît que le silence, c'est pas un vrai silence. Il y a toujours un petit fond.
C'est ça. Donc, on doit choisir des silences qui sont en rapport avec le silence d'un hôpital ou le silence d'une maison ou le silence... voilà. C'est un travail de titan, quoi. C'est vrai que la post-production, j'ai eu dur. Hein. J'étais...
Disons que c'est la partie un peu moins fun de la réalisation.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la partie la plus difficile. Et puis, bon, ben, chaque fois, vous devez toujours suivre parce que bon, je me retrouve dans des studios avec des gens différents. Le montage image, par exemple, j'étais avec Philippe Ravout, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Philippe Ravout a déjà travaillé sur pas mal de films qui ont eu des prix, etc. Et vraiment, c'est un personnage dont je souhaite vraiment travailler avec lui prochainement encore. Vraiment, c'était des conditions, quelqu'un vraiment de très très bien à tous les niveaux et qui me laisse en plus diriger quand même parce que parfois, ils essayent d'imposer certains monteurs images, essayent d'imposer. Mais je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et comme je dis toujours, je tiens les rênes. Et c'est vrai qu'il écoute, il sait ce que il s'aperçoit. Parce que si lui a vu le film préalablement ou les rushs, je veux dire les rushs, il a vu certaines choses, mais il y a des choses qui peuvent lui échapper. Parce que par exemple, il y a des intentions, il me dit mais c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de cette intention-là. Je dis si, parce que ces intentions, ça, ces petites expressions-là donnent la force dans le personnage qu'on retrouve à certains moments à plusieurs reprises dans le film. Et après, il s'aperçoit qu'en effet, ces intentions-là avaient une raison d'être et elles renforçaient la personnalité de ce personnage. Voilà.
Ok, bah d'accord, voilà, c'est très complet comme information. Et je crois que tu lances une action particulière pour tous ceux qui iront voir le film en salle, je crois, à partir du 2 décembre jusqu'au 11 décembre.
Oui, tout à fait. Donc entre le 2 et le 11 décembre, tous les jours, entre le 2 et le 11 décembre, ou à 14h30 ou à 20h, les gens viennent quand ils veulent. On a reconstitué une salle de cinéma dans le Palais des Expos où j'avais déjà reconstitué 8 décors du film. Et on va se retrouver dans une petite salle de cinéma qui est reconstituée dans les décors. Et dans cette salle de cinéma, on se retrouve avec des petits tas, des petites chaises, il y aura un grand écran et les gens un petit peu dans des conditions très conviviales pourront voir le film en buvant un verre, etc. Et après la séance, on aura l'opportunité de faire des photos des personnes et de prendre les contacts des personnes qui souhaitent faire la figuration dans mon prochain film et peut-être même un petit rôle. Voilà. Voilà.
Ah bah c'est très intéressant tout ça. Et les personnes qui viendront écouter cette interview audio sur le blog, est-ce qu'ils peuvent aller sur le site Marbistar pour se renseigner auprès de toi?
Oui, tout à fait, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y a un site, hein, le site de Marbistar, etc. Et alors bon, venez voir ce film. Pourquoi? Parce que d'abord, comme je le disais, c'est un film drôle, émouvant, on rit, on pleure. J'ai des gens ici qui reviennent au Palais Expo, qui reviennent le voir pour la troisième fois ou la deuxième fois, c'est incroyable. Donc il y a vraiment de bonnes réactions. J'ai une dame qui me disait encore récemment ici, écoutez, j'étais sceptique avant d'y aller et surtout j'avais peur parce que mon mari ne supporte pas le cinéma. Et elle disait, quand j'étais là, arrivée dans la salle, je me dis, pourvu qu'après il va parler, parce qu'elle dit après, pendant 2-3 jours, il va me casser les pieds en disant tu m'as emmené voir un film qui m'a cassé les pieds. Et puis elle m'a dit je suis sortie de la salle, on avait les larmes qui coulaient parce que c'était tellement émouvant la fin du film. Et lui, il avait les yeux tout brillants. Et alors il était vraiment subjugué et ils reviennent le revoir. Je donne ça comme un exemple, il y en a plein comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc on sent vraiment, d'abord il faut aller le voir, et aussi parce que c'est un film Carolo, c'est le premier long métrage Carolo. Voilà, écrit et réalisé par une femme.
C'est un événement.
C'est un événement. Et en plus, ce film-là, il va être présent au Magritte. Donc, on attend que les gens votent pour le film, puisqu'il y a le prix du public pour un premier long métrage. Donc, mon film est un premier long métrage. Et les gens peuvent voter sur Internet, donc, en cliquant donc, sur les Magritte et retrouver donc, sur la page la possibilité de voter pour ce film Marbistar de Couille des Églises.
Donc, voilà. Donc, il faut aller, pour ceux qui veulent voter, arriver. Il faut aller sur le site de la cérémonie des Magritte.
C'est ça.
Et là, il y a le bouton. Voilà, sous l'affiche probablement.
Je suppose. Ouais.
De Marbista.
Présenté pour l'instant parce que ça démarre à partir du 1er décembre jusqu'au 15 janvier.
D'accord.
Mais voilà, mais ça serait formidable. Mais bon, oui. Ça serait formidable si on avait quelque chose. Mais si on n'a rien, c'est pas grave parce que bon, voilà, il y a quand même d'autres films.
Voilà, la récompense c'est le public.
La récompense c'est le public, c'est vraiment exactement ça. C'est le principal.
Voilà, merci beaucoup Dominique Smets et bonne continuation pour les futurs projets.
Merci à toi.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.